ces vagues de purges s'étaient succédé depuis quelques années, plus précisément depuis 2013. En réalité, il y a eu des purges extraordinaires à la fois dans la justice, dans la police, dans l'éducation nationale et dans les hauts fonctionnaires. Mais là, ce fut le dernier coup. Maintenant, le pouvoir en place est en train d'écarter l'ensemble des individus qui seraient pas tout à fait à ses ordres. Nous sommes en train de passer d'un État-parti vers un parti-État. L'État se transforme en un parti politique qui est au pouvoir actuellement depuis 2002.
Et quand vous dites tentative caricaturale de putsch, ça veut dire que vous ne croyez pas en la réalité de cette tentative de coup d'État ?
Si, je crois parfaitement en la réalité de cette tentative, mais les moyens utilisés pour cette tentative de coup, à la fois les moyens humains et les moyens techniques et les moyens médiatiques, si j'ose le dire, sont tellement de notre temps que la réponse à ces méthodes antidéluviennes fut une réponse post-postmoderne. Nous avons vu le président de la République en train d'appeler les foules dans les rues à travers un iPhone tenu par une présentatrice télé sur une chaîne privée avec ses ongles manucurés. Donc c'était extrêmement ubuesque comme situation. Et d'ailleurs, la foule en question a écouté le président, est descendu dans la rue et il y a eu des scènes de lynchage, il y en a encore, suivies justement des promesses du président pour le rétablissement de la peine de mort. Donc la tentative de coup d'État, à mon sens, est bien réelle, vient d'une frange de l'armée. Maintenant, on saura quelle est cette frange, si c'est réellement donc suivant les ordres de Fethullah Gülen, ce leader politico-religieux exilé aux États-Unis, où ça n'était qu'un prétexte, où ils ont été manipulés. Je vous rappelle que la personne en question réfute totalement ces allégations. Nous le verrons. Ou alors, s'il s'agissait d'une frange des moyens gradés séculariste, kémaliste, qui voyait de mauvais œil l'islamisation rampante du régime, je ne sais pas, nous ne le savons pas encore, mais comme d'habitude certainement, la population de Turquie est entre le marteau et l'enclume, d'un côté le risque d'une junte militaire, de l'autre côté le risque d'un régime autoritaire islamiste.
Là, il y a le chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, a dit espérer que cette tentative de putsch manquée, et surtout ces réactions de la population turque qui est descendue assez massivement dans les rues, en effet, pour contrer aussi le putsch ou manifester son soutien à Erdogan, ça pouvait être le réveil de la démocratie turque et pour montrer qu'il ne voulait pas un retour à une junte militaire au pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est une analyse qui vaut quelque chose ?
Naïve, mais également c'est une analyse qui montre quand même l'attitude de l'Europe occidentale complètement coincée entre plusieurs défis et plusieurs crises. Premièrement, le président de Turquie possède un atout entre ses mains, une monnaie d'échange extraordinaire, ces réfugiés, ces pauvres réfugiés syriens qui fuient exactement la même violence qui fait peur l'Europe occidentale et utilise ceci comme une monnaie d'échange pour faire pression sur ses partenaires occidentaux. Et donc du coup, l'Union européenne, les partenaires occidentaux en tant que pays, mais également le Conseil de l'Europe, dont la Turquie est un pays fondateur, ne peuvent pas élever la voix contre les exactions passées ou à venir par le régime. Maintenant, bien au contraire, le président possède maintenant un boulevard devant lui. Chaque opposition à partir d'aujourd'hui sera considérée comme un soutien aux putschistes. À mon avis, le peu de check and balance, le contrôle des institutions qui restait, va disparaître dans les semaines et mois à venir. D'ailleurs, c'est en train de se passer. La justice, 40% de la justice de l'appareil judiciaire a été écarté, presque 50% de l'armée, des hauts gradés et des moyens gradés seront écartés, idem pour la police, idem dans les universités où chaque fois qu'il y a une université d'opposition privée, il y a des tuteurs qui sont nommés pour qui reprennent en main l'université. Les journaux, bien entendu, sont divisés en deux. La moitié des journaux sont devenus des espèces de Pravda à la botte du gouvernement. Et l'autre moitié est toujours sous le coup d'une épée de Damoclès sur la tête s'ils s'opposent. Donc en réalité, de cette situation, de la tentative de putsch ratée, j'ai du mal à voir qu'il y ait une démocratie, droit de l'homme, état de droit, les trois principes du Conseil de l'Europe qui sortent.
Mais justement, là, vous parliez des réfugiés syriens. L'accord qui a été passé en mars dernier avec la Turquie, entre l'Union européenne et la Turquie, à ce propos, n'a toujours pas été vraiment finalisé. Et on a l'impression que les Européens sont totalement démunis. Et maintenant qu'on parle éventuellement de rétablir la peine de mort, est-ce que ce n'est pas aussi le tournant qui montre que définitivement Erdogan tourne le dos à l'Europe, que de toute façon la Turquie n'y croit plus du tout à ces négociations d'adhésion?
Bien entendu. Déjà, première réponse, la négociation d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne est un non-sens maintenant. Ni pour la Turquie, ni pour l'Union européenne. Tout le monde a très bien compris la direction du régime et tout le monde a très bien compris la direction de l'Europe elle-même. Deuxièmement, le rétablissement de la peine de mort veut dire plusieurs choses. Oublier la question de l'Union européenne, c'est la question du Conseil de l'Europe. La Turquie est un des pays fondateurs du Conseil de l'Europe et la peine de mort y est interdite. Donc, si il y a un rétablissement quelconque dans un cadre d'un discours populiste de la peine de mort, ça veut dire que la seule institution qui représente les valeurs de l'Europe, dont la Turquie est fondateur, encore une fois, sera également à l'extérieur du champ de la politique étrangère. Donc, de ce point de vue, c'est extrêmement dangereux parce que, quoi qu'il en soit, le Conseil de l'Europe et la Cour européenne des droits de l'homme ont orienté la Turquie vers plus de démocratie, plus de respect des droits de l'homme et plus de l'état de droit. Donc, une coupure avec le Conseil de l'Europe, il n'y a rien de plus dangereux, bien entendu. D'autant plus que, dans un état de droit, vous savez très bien qu'il y a le principe de la non-rétroactivité des nouvelles lois. Autrement dit, aujourd'hui même, le rétablissement de la peine de mort, normalement, ne peut pas être appliqué pour les putschistes de crimes ayant été commis avant leur rétablissement. Le seul moyen de le faire est de supprimer la mention de l'état de droit de la Constitution de Turquie et que la Turquie entre dans un régime véritablement autoritaire qui s'assume en tant que tel.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'opposition laïque, pour les partis pro-kurdes?
Alors, il y a effectivement plusieurs types d'opposition en Turquie, mais qui sont très fragmentés. Il y a, comme vous le dites, des sécularistes kémalistes qui, eux, également possèdent un dogme. D'ailleurs, c'est grâce à ce dogme que l'islamisme a pu fleurir. Il existe l'opposition kurde. L'opposition kurde, aujourd'hui, est devenue inaudible également à cause de la guerre dans le sud-est de la Turquie, dans le Kurdistan turc, et liée, bien entendu, dans le nord de la Syrie. Et il existe également, il faut le dire, une toute petite frange d'opposition qu'on peut qualifier de démocrate, libéral, respect des droits de l'homme, etc., qui, à chaque fois qu'ils ont tenté de se réunir, ont subi des scissions, mais aussi des répressions. Après la tentative de coup d'État avortée, je pense que cette opposition, toutes les oppositions, vont être encore une fois inaudibles, dans la mesure où ils vont être accusés de putschisme. Donc, l'espace d'opposition se réduit encore une fois, après cette nuit folle.
Mais quel est l'avenir en termes d'alliance stratégique pour la Turquie, si elle se détourne totalement de l'Europe, quels seront ses nouveaux partenaires fiables, y compris économiques?
Alors, vous savez que la Turquie a commencé à changer sa politique étrangère à partir des années 2010 et s'est orientée plus vers la région. Or, depuis ces années 2010, à travers le printemps arabe, ce qu'on a appelé le printemps arabe, qui n'était ni printemps ni arabe, à mon sens, il y a eu des erreurs de politique étrangère extraordinaires et la Turquie s'est coupée de l'ensemble de ses partenaires régionaux. Pensez à l'Égypte, pensez à la Syrie, pensez à l'Irak, à la Russie, à Israël, bien entendu. Depuis quelques mois, il y a quelques tentatives de réconciliation avec la Russie et l'Israël, voire avec l'Égypte et voire ensuite avec la Syrie. Mais justement, à cause de la question du Proche-Orient, la question syrienne, la question de l'État islamique, de l'organisation de l'État islamique, à mon avis, les États-Unis ne sont pas prêts à lâcher entièrement la Turquie en tant que partenaire. Cela dit, quand on pense à ces notions abstraites comme la démocratie, les droits de l'homme ou l'état de droit que représente le Conseil de l'Europe, l'éloignement de la Turquie de ces principes-là ouvre bien entendu la porte à un plus grand chaos dans toute la région, voire en Europe.